Alors, je remercie bien sûr les organisateurs du forum de m'avoir invité à ouvrir une méditation sur un aspect de la spiritualité de l'âge apostolique, mais aussi de l'islam. Et par conséquent, un aspect intéressant pour la mission, bien sûr, qui est la nôtre, qui est d'annoncer aux musulmans la bonne nouvelle du Seigneur. En effet, l'oralité est un élément essentiel de l'islam. Cela peut paraître un paradoxe, mais pourtant c'est ce que toute personne qui rencontre des musulmans pratiquants est forcée de reconnaître. Les musulmans, en effet, récitent à haute voix le Coran, ils le cantillent, ils l'apprennent par cœur, ils y mettent d'ailleurs beaucoup d'efforts depuis le plus jeune âge. Et ils sont fiers de pouvoir réciter par cœur le Coran. Je défie aujourd'hui de rencontrer des chrétiens qui seraient fiers de pouvoir réciter l'Évangile par cœur. L'oralité est donc essentielle à la pratique de l'islam. Et ce que je vous propose d'approfondir, c'est de voir que cela remonte effectivement au Coran lui-même et sans doute au-delà du Coran, aux origines de la foi de ceux qui deviendront plus tard les musulmans. Vous savez comme moi que l'islam en général et le Coran en particulier constituent une religion étrange à bien des aspects, qu'il contient de nombreux paradoxes, et parmi ceux-là, il y en a un qui est fondamental, c'est que les mots du Coran n'ont jamais le sens ou rarement le sens qu'on devrait leur donner normalement. La langue du Coran, et surtout celle de l'islam ensuite, est ce que l'on peut appeler une « nouvelle langue ». C'est peut-être même dans l'histoire de l'humanité, en tout cas pour de façon accessible, la première fois que nous sommes en face d'une « nouvelle langue ». C'est-à-dire du fait d'utiliser les mots dans un sens qui n'est pas celui que l'on devrait attendre. Vous savez comment que l'arabe est une langue sémite ? Et par conséquent, les mots correspondent normalement à des significations sémites. Mais étrangement, souvent, très souvent, le Coran donne un autre sens aux mots que celui qui vient de leurs racines. C'est pourquoi lorsque nous-mêmes nous lisons le Coran dans les traductions, eh bien, nous pouvons être totalement à côté de ce que nous pourrions comprendre si nous connaissions les langues sémites. Or, justement, le Coran est, comme il l'indique en arabe, eh bien une proclamation. Il vient de la racine « qara » et le Coran est un « qur'an ». C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une lecture, ce n'est pas une méditation, ce n'est pas une réflexion, c'est une proclamation qui doit être faite à voix haute. C'est le statut premier du, précisément, objet de la révélation qui est faite ici à ceux qui s'appelleront plus tard les musulmans. Le Coran ne peut donc pas normalement être lu, il ne peut pas être normalement étudié comme tel. Ce serait être en deçà de ce qu'il est. Le Coran doit être proclamé, il doit être même, on verra, chanté, et c'est dans la mesure où on l'entend proclamé qu'alors doit advenir dans les auditeurs, eh bien, la fameuse conversion et la foi qui doit aboutir à, on verra. J'ai pris seulement une phrase, un verset significatif. Elle est tirée de la sourate 54, Al-Qamar, Dieu donc dit « لَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِنَ الْمُذَكِّرِ » C'est-à-dire, il nous a plu de faire une proclamation qui soit pour la mémoire. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui mémorisent ? C'est très intéressant, parce que parmi les traductions, vous trouverez souvent le mot central « dhikr », « mémoire » est remplacé par « instruction », par « exhortation ». C'est-à-dire que l'on regarde le contenu proprement dit et pas la forme. Or, le Coran, est-il dit, est fait pour la mémoire. Et étrangement, l'auteur s'étonne que déjà à son époque, il n'y a plus personne qui mémorise. J'ai traduit par mémoriser parce que si c'est simplement faire souvenir, ça devrait être dhikr. Mais c'est muzakkir, avec une importance sur l'action, qui signifie que déjà, eh bien, l'auteur, peut-être divin, en tout cas Dieu, peut-être, il a peut-être raison de se fâcher et de dire, mais alors, il n'y a plus personne qui mémorise. Alors, je vais faire un Coran, c'est-à-dire une proclamation destinée à reconstituer une mémorisation. Et les petits musulmans, jusqu'à maintenant, ne cessent d'essayer de maintenir dans leur culture et dans leur société eh bien, la pratique de la mémorisation. Une pratique qui, sans doute, devra être de plus en plus difficile avec, évidemment, l'ouverture au monde moderne, puisque le monde moderne n'est pas du tout tourné vers la mémorisation. Il y a même des petits versets très simples, mais tout à fait étonnants. Par exemple, à la sourate 38, qu'on appelle Sad, elle fait un petit verset, c'est juste un petit verset. « Wal Qur'an zi dhikr » Vous savez que c'est intraduisible en français. Mais ça veut dire, grosso modo, eh bien, la proclamation, c'est ce qui est la mémoire, ou ce qui possède la mémoire. Vous voyez ? Autrement dit, on ne peut rencontrer Dieu dans son message que dans la mesure où ce message est devenu mémoire. Ce n'est pas un mince argument. Vous savez comme moi que toute la religion, la vertu de religion, est une vertu du mémorial. Être religieux, c'est vivre le temps présent dans la mémoire des hauts faits de Dieu. Et par conséquent, l'auteur ici du Coran indique très clairement qu'il n'y aura pas de rencontre avec Dieu s'il n'y a pas une restauration de la mémoire et par conséquent une restauration de la mémorisation. Un autre petit verset, très étonnant. C'est un tout petit verset de deux mots encore, perdu dans une sourate qui s'appelle As-Saffat. Fataliyat zikran. Alors là, nous rencontrons un autre élément de la novlangue du Coran. Nous rencontrons le verbe « talao ». En arabe, « talao », désormais, à cause du Coran, « talao » veut dire « réciter ». Et donc, ce que je viens de vous lire, c'est « les récitations, c'est la mémoire ». Je vous le redis en arabe, « fataliyat zikran ». Autrement dit, il faut réciter pour obtenir la mémoire de Dieu, et c'est ainsi que s'accomplit la rencontre avec Dieu dans sa parole. Alors évidemment, la racine talao ne signifie récitation qu'en arabe. Si vous cherchez dans les langues sémites, talao n'a rien à voir avec la récitation. Si vous cherchez, la racine elle-même, normalement, signifie pendre, talao. Talao. On peut bien se poser la question, comment se fait-il que la racine talao soit passée de l'acte de pendre à l'acte de réciter? Alors je ne suis pas allé chercher dans un dictionnaire étymologique de l'arabe, donc je me fie seulement aux racines sémites. Comme je ne trouvais rien, évidemment, dans les langues anciennes, je suis allé chercher dans la langue un peu plus proche de l'époque du Coran, à savoir celle du Talmud. Or, justement, dans le Talmud, vous avez Talia. Oui, oui. Et Talia signifie des cordes, des chaînes, des colliers, des séries verticales qui tiennent quelque chose. Oui, oui, vous pouvez le voir dans l'Yastro, vous avez tout un exemple. Il y en a même un très très beau qui est donné par Yastro, c'est peut-être qu'une plaisanterie, mais c'est très beau, il parle des fils qui tiennent le cœur. En tout cas, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la récitation procède d'une référence à des chaînes récitatives. Et cela est un thème important du Coran. Dieu dit à son destinataire qu'effectivement, il n'a pas révélé sa parole tout d'un bloc, mais il l'a donné de façon successive et un peu béquée par béquée. Par exemple, si vous voulez l'entendre, au verset 12, on dit « وَالْقُرْآنْ فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَهُ تَنْزِيلًا ». Alors, en arabe, ça ne veut rien dire. Sauf que l'on comprend, parce que c'est comme ça qu'on veut comprendre le Coran, « je l'ai fait descendre par des descentes », ça veut dire « je l'ai fait descendre successivement ». Pourquoi ? Pour que vous soyez capable de le retenir. Voyez, le Coran n'est pas un livre qui est donné d'un bloc pour qu'on puisse l'étudier. Ce n'est pas le but, même si on peut aussi l'utiliser pour cela. Mais fondamentalement, il doit être donné aux croyants sous la forme de chaînes récitatives qui permettront la mémoire. Et tant qu'à faire, on pourra mélodier les choses. Par exemple, verset 14 de Al-Muzammil, « Awzid alay wa ratil al-Qur'an tartilan ». Autrement dit, ajoute un peu dessus et puis chante-le. Voilà. Il faut évidemment mettre des mélodies pour faciliter la mémoire. Tout ça nous rapporte donc que Dieu se rencontre dans la mémoire et que cela a constitué la spiritualité profonde de nos destinataires de la révélation coranique. La mémoire est rattachée dans la tradition biblique, sémite et judaïque, et spécialement à la sagesse. C'est pourquoi, par exemple, on trouvera un verset comme celui-ci, c'est dans la sourate 3, Al-Imran, « ذَلِكَ نَتْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ » Cela, nous te le récitons par-dessus toi, parmi les signes de Dieu, et cela est le souvenir sage ou la mémoire sage. Effectivement, il n'y a pas de sagesse sans mémoire, car la sagesse est la connaissance du tout. Et il n'y a pas de capacité à reconnaître la totalité de la vie, du monde et de la vérité sans que la mémoire, eh bien, soit en jeu. La sagesse est au cœur, vous savez, de la démarche du Coran. Parmi les versets hyper classiques, il y en a plein, je choisis celui-ci qui est bien connu. La sagesse renvoie au cœur. Dans la tradition biblico-judaïque et chrétienne, le lieu de la mémoire, ce n'est pas le cerveau. Le lieu de la sagesse, ce n'est pas le cerveau, c'est le cœur. Le cœur est l'organe de l'unité de l'homme. Autrement dit, c'est dans la mémoire que se réalise en nous la sagesse qui unifie toute chose dans l'unité de la personne. Et c'est pourquoi le Coran ne peut pas être, s'il est véritable révélation de Dieu, autre chose qu'une mémoire du cœur. Par exemple, ici, l'auteur se fâche. فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالٍ. Autrement dit, voilà qu'ils ne marchent pas selon le Coran parce que leurs cœurs sont fermés. Évidemment, le cœur est le lieu proprement dit de la mémoire. Et c'est en ce sens-là, ici, que le cœur apparaît. Non pas le cœur sentimental, mais le cœur biblique. Le Coran aussi établit des liens avec la sagesse et aussi, semble-t-il, avec la purification. C'est-à-dire que lorsque l'on fait mémoire de la parole de Dieu, lorsqu'on fait mémoire, eh bien on se trouve purifié par cette même parole. Alors, là encore, c'est un cas spécial de novlangue. Ou peut-être de reste de langues anciennes. Je m'arrête par exemple à des versets super connus. Par exemple, c'est une prière. Rabbana, Seigneur, ebraath fihim rasulan minhum. Fais surgir un prophète parmi eux, un envoyé. Yatlu alayhim, qu'il récite sur eux. Ayatika, tes signes. وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ, et qu'ils leur apprennent l'écriture, وَالْحِكْمَ, et la sagesse, وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ. Normalement, si vous cherchez des traductions, vous trouvez « et qu'il les purifie, toi qui es le Dieu tout-puissant et sage ». Pourquoi purifier ? Alors que la racine « zaka » en arabe courant, veut dire plutôt rendre intelligent. Mais effectivement, si vous retournez aux racines sémites, dakhra, ça veut dire purifier. Autrement dit, c'est seulement dans la mémoire, lorsque la personne fait reposer sur elle le Verbe de Dieu, qu'il éprouve la puissance purificatrice de la parole. Et c'est important, parce que vous savez que dans l'islam, il n'y aura pas d'autre façon de se purifier que de mémoriser la parole. Mais en tout cas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'établissement du lien entre purification et récitation sur soi de la parole de Dieu. Puisque le temps passe, je ne vais pas ajouter d'autres citations. Ainsi, nous voyons que les destinataires du Coran ont d'abord reçu comme mission de restaurer une spiritualité de la mémoire comme rencontre avec Dieu. Et ils ont tâché de rendre cela de nouveau possible. Sous-entendu, comme nous l'avons vu, l'auteur se fâchait qu'il n'y avait plus personne pour mémoriser. Et que donc, il s'est donné pour tâche de faire en sorte que l'on puisse de nouveau mémoriser pour de nouveau rencontrer Dieu dans la mémoire de ses hauts faits. Il est vrai qu'il a précisé, quelque part, dans diverses sourates, par exemple, qu'il a fait ça pour les Arabes. Ah, intéressant. Pareil dans Pezzoumar. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ. Pardon. Nous avons mis dans ce Coran de toutes les paraboles, sous-entendu possible, afin qu'ils se souviennent. Qur'anan arabiyan ghirzi awajin la'allahum yattaqun. Un Coran en arabe, sans faute, sans défaut, pourvu qu'il soit pieux. Autrement dit, l'auteur a voulu faire en sorte que la mémoire de Dieu puisse être accessible à des Arabes et qu'ainsi ils puissent jouir du mystère spirituel d'une mémoire ou d'un mémorial divin. Ici, évidemment, peu à peu, nous voyons que l'auteur du Coran prétend lui-même se référer à autre chose que ce même Coran. Nous avons déjà touché du doigt le thème de l'écriture. Évidemment, de quelle écriture s'agit-il ? Je laisse aux musulmans les problèmes qu'ils doivent résoudre. Nous, nous savons bien, nous en sommes convaincus par l'histoire, de l'évolution du Coran, que cette écriture n'est rien d'autre que la Bible. Autrement dit, le Coran a été une tentative de restaurer une mémoire de la Bible, des anba, les histoires, amthal, les paraboles, et autre chose qui constitue la matière de cette mémorisation présentée de par chaîne récitative afin que ceux qui l'entendent et qui le gardent dans leur cœur puissent être de nouveau en rapport avec le Dieu. Vous savez comme moi, je ne prendrai qu'un seul exemple, que non seulement il s'agit du livre bien connu, mais il s'agit encore aussi d'un autre livre qui se trouve dans les cieux. Par exemple, au verset de la sourate Yunus, au verset 37, « وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ » Mais ce Coran, cette récitation, n'a pas été créée sans Dieu. « وَلَكِنْ » mais plutôt « تَصْدِيق » elle est vérification, assertion, d'Allazi ben yadei, de celui qui est entre ses mains. Wabtasilan al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Et il est une mise en chapitre, tafsilan, mise en chapitre, de ce qui est sans rive, normalement c'est-à-dire sans débat, de la part du Dieu, du Seigneur des mondes. Voilà. Donc le Coran est une mise en feuillet ou en chaîne récitative du livre qui n'est rien d'autre qu'évidemment le Bible dont il n'y a pas de débat, c'est-à-dire c'est la Bible, et aussi de ce qu'il y a un autre livre qui est dans les cieux. Ici nous sommes à la croisée évidemment de diverses spiritualités qui, comme vous le savez, furent les débats de la période rabbinique. Effectivement, dans la Bible elle-même, jamais la Bible ne se réfère à un autre livre dont elle serait la copie. Il y a la référence au livre de la vie, il y a des registres de vie, Moïse s'y réfère, mais il ne prétend pas à aucun moment que le livre biblique soit une copie du livre céleste. En revanche, cela va être un thème décisif de la spiritualité rabbinique, contemporaine et surtout postérieure à notre Seigneur. Et par conséquent, le Coran lui-même appartient à ce développement spirituel, qui est un développement évidemment éminemment scripturaire. C'est-à-dire que le livre qui est entre nos mains perd de son statut absolu pour être seulement la copie d'un livre qui, lui, est absolu et qui, en retour, rend absolu le livre écrit entre nos mains. Le Coran, d'une certaine façon, s'y réfère directement. Et de ce point de vue-là, la spiritualité des destinataires du Coran est manifestement la spiritualité du rabbinisme. Le rabbinisme va peu à peu, au fur et à mesure de son élaboration, considérer que Moïse n'est pas un prophète comme les autres. Il est le plus grand des prophètes, et même il est plus que ce que nous on comprend, en tout cas dans la Bible, par le terme prophète. Il aurait tout vu au mont Sinaï, il aurait tout connu du livre de Dieu au Sinaï, et même les autres prophètes, eux-mêmes, n'auraient vu que ce que Moïse a vu. Et vous savez comme moi que c'est cette théologie-là de la révélation qui va devenir normative dans l'islam. Mahomet aurait tout vu, et tout ce que les autres ont vu n'ont rien vu que sinon ce que Mahomet a vu, puisqu'il a tout vu. Voilà. Cette boucle-là est d'origine rabbinique et fait en sorte que l'écrit devient absolument normatif, il devient lui-même une réalité divine. Mais d'un autre côté, la spiritualité de la mémoire, elle, renvoyait à autre chose. Elle renvoyait à une parole qui ne devait pas être seulement écrite, mais qui devait être inscrite dans les cœurs. Et cette pratique de la mémorisation a d'abord été, évidemment, l'expression du désir que la parole se fasse chair dans l'auditeur, en sorte que le statut de la parole dépende non pas d'un modèle écrit, mais dépende de la qualité par laquelle il s'inscrit dans la personne. Et l'islam va essayer de tenir ensemble une spiritualité de la mémoire qui inscrit la parole dans la personne et une spiritualité rabbinique de la copie du livre céleste. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le savez, entre-temps, eh bien le christianisme a lui proposé évidemment que la parole s'incarne pour de vrai dans l'histoire. Elle s'incarne d'abord, évidemment, en notre Seigneur Jésus-Christ, dont elle est proprement l'incarnation hypostatique, mais ensuite parce que dans les croyants qui sont unis au Christ, par le baptême, cette même parole, eh bien, s'incarne en chacun et lui apporte le salut. Parmi les termes de la novlangue islamique, vous avez un terme important qui est le mot « furqan ». Aujourd'hui, tout le monde, enfin c'est ainsi que l'on traduit, on traduit par « furqan » le discernement de la racine « faraq » qui veut dire « séparer ». Et par exemple, un verset ici de la deuxième sourate, « al-Baqara », vous avez, parmi tant d'autres, hein, « shahar ramadan » الذي أنزل فيه القرآن, donc le mois de Ramadan dans lequel a été descendue la proclamation, hudan linnas, donc un chemin pour les gens, wabayinat, et des illustrations, min al-huda, donc des illustrations de la voie, wa furqan, et furqan. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre par furqan? Aujourd'hui on traduit pour le discernement. Mais vous voyez bien que la progression, ce n'est pas celle-là. La Hoda, la grande voie, les illustrations de la grande voie renvoient au terme du salut. Et d'ailleurs, en syriaque, dans les langues sémites, Furqana renvoie expressément à la problématique du salut. Pour le Coran, évidemment, c'est « el-Qur'an », la récitation, qui constitue l'unique moyen de « furqan », non pas seulement de discernement, mais bien de salut personnel. Et cela en vertu d'une vieille et comme rampante théologie de l'incarnation, auquel nécessairement les premiers destinataires du Coran étaient évidemment connaisseurs. On pourrait s'attendre qu'il y ait encore des traces de cela lorsque le Coran parle de Marie et de Jésus. Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que lorsque le Coran parle de Marie et de Jésus, il n'y a plus aucune relation à la mémoire. En vertu, précisément, pourrait-on dire d'un choix rabbinique de situer la parole non plus dans la personne, mais dans une écriture absolutisée. Par exemple, pour finir, Marie, celle qui, pour nous, évidemment, fut le lieu même de l'incarnation de la parole, et qui, dans les évangiles, qui sont les nôtres, est la seule dont on rappelle qu'elle mémorisait et méditait et soupesait les paroles dans son cœur, la seule qui, pour nous, dans l'évangile, apparemment, est étroitement liée à la spiritualité de la mémoire, eh bien, dans le Coran, bien sûr, il lui est refusé toute référence à la mémoire. Par exemple, lorsque l'ange, ou lorsque Dieu rappelle que l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait devenir quand même la mère du Verbe, puisque c'est quand même la qualité de Jésus dans le Coran, eh bien, Dieu lui rappelle qu'elle n'a qu'à se prosterner. Je vous le dis juste comme ça. « Wa'iza qalat al-mala'ikatu » Et voici que dit l'ange. « Ya Mariamu, inna allaha istafaki » Et Dieu t'a choisi « wattaharaki » et il t'a purifié. Intéressant, parce que c'est le refus de l'Immaculée Conception. « Wastafaki ala nisel alamin » Et il t'a choisi parmi toutes les femmes du monde. « Ya Mariamu » Vous voyez, il lui sort tous ses privilèges, ses titres de gloire, pour conclure, « Ya Mariam, ktuni li rabiki watsjudi warkai ma'arrakin » Autrement dit, « Sois pieuse, prosterne-toi et agenoue-toi avec ceux qui s'agenouent. » Autrement dit, tais-toi. Voilà.
Merci.
Ainsi, nous voyons comment la spiritualité des premiers destinataires du Coran fut tout à la fois une spiritualité de la mémoire, sans doute héritée du mystère chrétien de l'incarnation comme accomplissement d'abord de la révélation biblique, et puis ensuite qu'il y a eu une sorte de détournement de la mémoire au profit d'un point de vue strictement rabbinique, afin de mettre, bien sûr, en défaut et en échec le mystère même de l'incarnation. Néanmoins, pour nous qui nous adressons à des musulmans, le fait que le Coran ne soit pas seulement lu, mais proclamé, chanté et mémorisé, constitue encore pour eux une expérience, pourrait-on dire, mémoriale de Dieu, qui nous est juste d'honorer, et même, mieux que ça, de le leur reproposer en annonçant le Saint-Évangile du Seigneur.